Chapitre 8. Il l'avait fait. Il l'avait enfin fait. La pièce dans laquelle il se trouvait avait une forme allongée et doucement éclairée. La voix diminuée du télécran n'était plus qu'un murmure bas. La richesse du tapis bleu foncé donnait l'impression qu'on marchait sur du velours. Au fond de la salle, O'Brien était assis à une table sous une lampe verte, avec de chaque côté de lui une masse de papier. Il n'avait pas pris la peine de lever les yeux quand la servante fit entrer Julia et Winston. Le cœur de Winston battait si fort qu'il doutait s'il serait capable de parler. Il l'avait fait. Il l'avait enfin fait, c'est tout ce qu'il pouvait penser. C'était un acte téméraire de venir ici, et de la pure folie d'arriver ensemble. Bien qu'ils soient en réalité venus par des chemins différents, ils ne se sont rencontrés que sur le pas de la porte d'O'Brien. Mais simplement entrer dans un tel endroit nécessitait un effort nerveux. Ce n'était qu'en de très rares occasions que l'on voyait l'intérieur des habitations des membres du parti intérieur, ou même que l'on pénétrait dans les quartiers de la ville où ils vivaient. L'atmosphère générale de l'énorme bloc d'appartements, la richesse et les vastes dimensions de tout ce qui s'y trouvait, les odeurs non familières de la bonne nourriture et du bon tabac, les ascenseurs silencieux et incroyablement rapides qui montaient et descendaient sans secousse, les serviteurs, en veste blanche, qui se dépêchaient çà et là, tout était intimidant. Bien qu'il eût un bon prétexte pour venir ici, Winston était tenté à chaque étape par la crainte qu'un garde en uniforme noir apparaisse soudain du coin de la rue, lui demande ses papiers et lui ordonne de sortir. Le serviteur d'O'Brien, cependant, les avait admis tous deux sans hésitation. C'était un petit homme aux cheveux noirs, vêtu d'une veste blanche, qui avait un visage en forme de losange, absolument sans expression, qui pouvait être un visage de chinois. Sur le passage dans lequel il les conduisait, le sol était recouvert d'une moquette douce, et les murs de crépi et de lambris blancs, le tout d'une propreté exquise. Cela aussi était intimidant. Winston ne pouvait pas se souvenir d'avoir jamais vu un passage dont les murs n'étaient pas crasseux du contact des corps humains. O'Brien avait un bout de papier entre les doigts et semblait l'étudier avec attention. Son visage lourd, penché pour que l'on puisse voir la ligne du nez, avait l'air à la fois formidable et intelligent. Pendant peut-être 20 secondes, il resta assis sans remuer. Puis il rapprocha de lui le phonoscript et lança un message dans le jargon hybride des ministères. « Item 1,5,7 approuvé. Entièrement. Stop. » Suggestion contenue, item 6, absolument ridicule, frisant, crime pensé, annulé. Stop. Interrompre, construction, sage d'abord, avoir estimation plus complète, machinerie aérienne, stop. Fin message. Il se leva délibérément de sa chaise et s'approcha d'eux en marchant sur le tapis d'un pas feutré. Un peu de l'atmosphère officielle semblait s'être détachée de lui en même temps que les mots novlangues. Mais son expression était plus sombre que de coutume, comme s'il n'était pas content d'être dérangé. La terreur que ressentait déjà Winston était soudainement traversée par une série d'embarras ordinaires. Il lui semblait tout à fait possible qu'il ait simplement fait une erreur stupide. Quelle preuve avait-il en réalité qu'O'Brien était une sorte de conspirateur politique? Rien d'autre qu'un éclair dans les yeux, et une seule remarque équivoque. En dehors de cela, il n'y avait que sa propre imagination secrète fondée sur un rêve. Il ne pouvait même pas se rabattre sur le prétexte qu'il était venu emprunter le dictionnaire, car, dans ce cas, la présence de Julia était impossible à expliquer. Alors qu'O'Brien passait devant le télécran, il sembla frappé d'une idée. Il s'arrêta, se tourna sur le côté, et appuya sur un interrupteur sorti du mur. Il y eut un brusque claquement. La voix s'était arrêtée. Julia émit un petit son, une sorte de grincement de surprise. Même au milieu de sa panique, Winston était trop surpris pour pouvoir tenir sa langue. « Vous pouvez l'éteindre ? » dit-il.
« Oui, » dit O'Brien. « Nous pouvons l'éteindre. Nous avons ce privilège. »
Il était en face d'eux maintenant. Sa stature solide dominait sur celle des deux autres, et l'expression de son visage était encore indéchiffrable. Il attendait un peu sévèrement que Winston parlât, mais à quel sujet ? Même maintenant, on pouvait parfaitement concevoir qu'il était simplement un homme occupé qui se demandait avec irritation pourquoi on l'avait interrompu. Personne ne parla. Après l'arrêt du télécran, la salle semblait d'un silence mortel. Les secondes défilaient, énormes. Avec difficulté, Winston continua à garder les yeux fixés sur ceux d'O'Brien. Puis, soudain, le visage sombre s'est décomposé en ce qui aurait pu être les prémices d'un sourire. Avec son geste caractéristique, O'Brien a remis ses lunettes sur son nez.
« Dois-je le dire ?
Ou le feras-tu ? » dit-il. « Je vais le dire, » dit Winston sans tarder. « Cette chose est vraiment éteinte ? »
« Oui, tout est éteint. Nous sommes seuls. Nous sommes venus ici parce que... »
Il s'arrêta, réalisant pour la première fois le flou de ses propres motivations, comme s'il ne savait pas en fait quel genre d'aide il attendait de M. O'Brien. Il n'était pas facile de dire pourquoi il était venu ici. Il continua, conscient que ce qu'il disait devait paraître à la fois faible et prétentieux.
Nous pensons qu'il y a une sorte de conspiration, une sorte d'organisation secrète qui travaille contre le parti et que vous y êtes impliqué.
Nous voulons y participer et travailler pour elle. Nous sommes des ennemis du parti. Nous ne croyons pas au principe de Langsok. Nous sommes des criminels de la pensée. Nous sommes aussi des adultères. Je vous dis cela parce que nous voulons nous mettre à votre merci. Si vous voulez que nous nous incriminions d'autre chose, nous sommes prêts. Il s'arrêta et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avec la sensation que la porte s'était ouverte. Effectivement, le petit serviteur au visage jaune était entré sans frapper. Winston vit qu'il portait un plateau avec une carafe et des verres. « Martin est l'un des nôtres, » dit O'Brien impassiblement. « Apportez les boissons par ici, Martin. Mettez-les sur la table ronde. Avons-nous assez de chaises ? Alors nous pouvons aussi bien nous asseoir et parler à notre aise. « Apportez une chaise pour vous, Martin. Nous allons parler affaires. Vous pouvez, pendant 10 minutes, cesser d'être un domestique. » Le petit homme s'assit tout à fait à son aise, et pourtant avec un air de serviteur, l'air d'un valet de chambre jouissant d'un privilège. Winston le regardait du coin de l'œil. Il fut frappé que l'homme jouait une partie qui engageait toute sa vie, et qu'il lui semblait dangereux de laisser tomber sa personnalité supposée, ne serait-ce qu'un instant. O'Brien prit la carafe par son goulot et remplit les verres avec un liquide rouge foncé. Il éveilla chez Winston le faible souvenir de quelque chose vu dans un passé lointain. Il y a quelques années, sur un mur ou sur une palissade, une vaste bouteille composée d'arcs électriques qui semblait se déplacer de haut en bas et verser son contenu dans un verre. Vu de dessus, le contenu semblait presque noir, mais dans la carafe, il brillait comme un rubis. Elle avait une odeur aigre-douce. Il vit Julia ramasser son verre et renifler avec une franche curiosité. « On appelle cela du vin, » dit O'Brien avec un léger sourire. « Vous l'avez lu dans les livres, sans doute. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aillent aux parties extérieures. » Son visage reprit son expression solennelle et il leva son verre. Je pense qu'il est approprié que nous commencions par porter un toast à notre chef, à Emmanuel Goldstein. Winston prit son verre avec un certain empressement. Le vin était un breuvage qu'il connaissait par ses lectures et dont il rêvait. Comme le presse-papier de verre ou les bouts rimés que M. Charrington se rappelait à demi, il appartenait à un passé romantique disparu, le vieux temps, comme il l'appelait en secret. Pour une raison quelconque, il avait toujours pensé que le vin avait une saveur intensément sucrée comme celui de la confiture de mûre et qu'il avait un effet immédiatement enivrant. En fait, quand il en vint à l'avaler, la substance fut nettement décevante. La vérité, c'est qu'après des années de gin, il pouvait à peine y goûter. Il posa le verre vide. Alors, il y a une personne comme Goldstein, a-t-il dit.
Oui, cette personne existe. Et elle est vivante. Ou, je ne sais pas.
Et la conspiration, l'organisation, est-elle réelle? Elle n'est pas simplement une invention de la police de la pensée?
Non, elle est réelle. La fraternité, nous l'appelons. Vous n'en apprendrez jamais beaucoup plus sur la fraternité, hors qu'elle existe et que vous en faites partie. J'y reviendrai tout à l'heure.
Il regarda sa montre. Il est imprudent, même pour les membres du parti intérieur, de fermer le télécran plus d'une demi-heure. Vous n'auriez pas dû venir ensemble, et il vous faudra partir séparément. Toi, camarade, il inclina la tête devant Julia, tu partiras la première. Nous avons une vingtaine de minutes à notre disposition. Vous comprenez que je dois commencer par vous poser certaines questions de façon générale. Qu'êtes-vous prêt à faire ?
Tout ce dont nous sommes capables, déclara Winston.
O'Brien s'était un peu retourné sur sa chaise pour être face à Winston. Il ignora presque Julia, semblant prendre pour acquis que Winston pourrait parler en son nom. Ses paupières battirent un moment sur ses yeux. Il commença à poser des questions à voix basse et sans expression, comme si c'était une routine, une sorte de catéchisme, dont la plupart des réponses étaient déjà connues de lui.
Êtes-vous prêt à donner votre vie ?
Oui.
Vous êtes prêt à commettre un meurtre ?
Oui.
À commettre des actes de sabotage pouvant entraîner la mort de centaines de personnes innocentes ?
Oui.
Trahir votre pays auprès de puissances étrangères ?
Oui.
Vous êtes prêt à tromper, à faire des faux, à extorquer, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer les drogues qui font naître des habitudes, à encourager la prostitution, à propager les maladies vénériennes, à faire tout ce qui est susceptible de causer la démoralisation du parti et de l'affaiblir.
Oui.
Si, par exemple, il est dans notre intérêt de jeter de l'acide sulfurique au visage d'un enfant, êtes-vous prêt à faire cela ?
Oui.
Vous êtes prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre vie en tant que serveur ou docker ?
Oui.
Vous êtes prêt à vous suicider si et quand nous vous l'ordonnons ?
Oui.
Vous êtes prêts tous les deux à vous séparer et à ne jamais vous revoir ?
Non ! S'écria Julia.
Il sembla à Winston qu'un long moment s'est écoulé avant qu'il pût répondre. Pendant un instant, il semblait même avoir été privé du pouvoir de parole. Sa langue fonctionnait sans bruit, formant les premières syllabes d'un mot, puis de l'autre, encore et encore. Il ne savait pas, avant qu'il eût dit, quel mot il allait prononcer.
« Non, » dit-il enfin.
« Vous avez bien fait de me le dire, » a déclaré O'Brien. « Il est nécessaire pour nous de tout savoir. » Il se tourna vers Julia et ajouta d'une voix plus expressive « Comprenez-vous que même s'il survit, ce sera peut-être sous l'aspect d'une personne différente. Nous pouvons être obligés de lui donner une autre identité. Son visage, ses gestes, la forme de ses mains, la couleur de ses cheveux, même sa voix serait différente. Et vous-même pourrez être devenu une personne différente. Nos chirurgiens peuvent changer les gens et les rendre absolument méconnaissables. » Il arrive que ce soit nécessaire. Nous faisons même parfois l'amputation d'un membre. » Winston ne pouvait pas s'empêcher de lancer un autre regard sur le visage mongol de Martin. Il ne put voir aucune cicatrice. Julia était devenue plus pâle, de sorte que ses taches de rousseur étaient visibles. Mais elle fit face à O'Brien avec audace. Elle murmura quelque chose qui semblait être un assentiment. « Bien, alors c'est réglé. » Il y avait une boîte de cigarettes en argent sur la table. Avec un air plutôt distrait, O'Brien la poussa vers eux et en prit une pour lui, puis se leva et marcha lentement de long en large, comme s'il pouvait mieux penser debout. C'était de très bonnes cigarettes, très épaisses et bien emballées, avec une douceur inhabituelle dans le papier. O'Brien regarda sa montre-bracelet à nouveau. « Vous feriez mieux de retourner à l'office, Martin, » dit-il. « Je tournerai le bouton du télécran dans un quart d'heure. Regardez bien les visages de ses camarades avant de vous en aller. Vous les reverrez, moi peut-être pas. » Exactement comme il l'avait fait à la porte d'entrée, les yeux sombres du petit homme scintillaient en regardant leur visage. Il n'y avait aucune trace de convivialité dans ses manières. Il mémorisait leur apparence, mais ne s'y intéressait pas, ou le faisait croire. Winston se dit qu'un visage synthétique était peut-être incapable de changer d'expression. Sans parler, ni faire aucune sorte de salutation, Martin se retira en fermant silencieusement la porte derrière lui. O'Brien arpentait la pièce, une main dans la poche de sa salopette noire, l'autre tenant sa cigarette. « Vous comprenez, dit-il, que vous allez vous battre dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et vous y obéirez sans savoir pourquoi. Plus tard, je vous enverrai un livre dans lequel vous apprendrez la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons et la stratégie par laquelle nous la détruirons. Lorsque vous aurez lu le livre, vous serez membre à part entière de la confrérie. Mais entre les objectifs généraux pour lesquels nous nous battons et les tâches immédiates du moment, vous ne saurez jamais rien. Je vous dis que la confrérie existe, mais je ne peux pas vous dire si elle compte 100 membres ou 10 millions. Pour ce que vous en connaîtrez personnellement, vous ne serez jamais capable de dire si elle comprend même une douzaine de membres. Vous aurez 3 ou 4 contacts qui seront renouvelés de temps en temps, au fur et à mesure de leur disparition. Comme il s'agit de votre premier contact, ce sera maintenu. Lorsque vous recevrez des ordres, ils proviendront de moi. Si nous jugeons nécessaire de communiquer avec vous, ce sera par l'intermédiaire de Martin. Lorsque vous serez enfin pris, vous avouerez. C'est inévitable. Mais mis à part vos propres actes, vous aurez très peu à confesser. Vous ne pourrez trahir qu'une poignée de gens sans importance. Vous ne me trahirez probablement même pas. D'ici là, je serai peut-être mort, ou je serai devenu une personne différente, avec un visage différent. » Il continuait à faire des allers-retours sur le tapis moelleux. Malgré la masse de son corps, il avait une remarquable grâce dans ses mouvements. Elle est apparue même dans le geste avec lequel il mit une main dans sa poche ou manipulait une cigarette. Plus encore que de la force, il donnait une impression de confiance et de compréhension teintée d'ironie. Aussi sérieux qu'il puisse être, il n'avait rien de la solitude d'un fanatique. Lorsqu'il parlait de meurtre, de suicide, de maladies vénériennes, de membres amputés et de visages altérés, c'était avec un léger air de persiflage. « C'est inévitable, » semblait dire sa voix. « C'est ce que nous devons faire sans relâche, mais ce n'est pas ce que nous ferons quand la vie vaudra la peine d'être vécue à nouveau. » Une vague d'admiration, presque d'adoration, jaillit de Winston vers O'Brien. Pour l'instant, il avait oublié la sombre figure de Goldstein. Lorsque vous aviez regardé les puissantes épaules de O'Brien et son visage fatigué, donc moche, et pourtant si civilisé, il était impossible de croire qu'il pourrait être vaincu. Il n'y avait pas de stratagème à la hauteur duquel il ne fut pas, de danger qu'il ne put prévoir. Même Julia semblait impressionnée. Elle avait laissé tomber sa cigarette de sa bouche et écoutait attentivement. O'Brien poursuivit. Vous devez avoir entendu des rumeurs sur l'existence de la fraternité. Vous vous êtes sans doute forgé votre propre image de celle-ci. Vous avez imaginé probablement un énorme monde souterrain de conspirateurs se rencontrant secrètement dans les caves, griffonnant des messages sur les murs, se reconnaissant par des mots codés ou par les mouvements spéciaux de la main. Rien de tel n'existe. Les membres de la fraternité n'ont aucun moyen de se reconnaître les uns des autres. Goldstein, lui-même, s'il tombait entre les mains de la police de la pensée, ne pourrait leur donner une liste complète des membres ou aucune information qui pourrait les amener à avoir une liste complète. Aucune liste n'existe. La confrérie ne peut être supprimée parce qu'elle n'est pas une organisation au sens ordinaire du terme. Rien ne relie ses membres, sauf une idée qui est indestructible. Vous n'aurez jamais rien d'autre pour vous soutenir que cette idée. Vous n'aurez aucun camarade et aucun encouragement. À la fin, quand vous serez pris, vous ne recevrez aucune aide. Nous n'aidons jamais nos membres. Tout au plus, s'il est absolument nécessaire que quelqu'un soit réduit au silence, nous sommes parfois en mesure de faire entrer clandestinement une lame de rasoir dans la cellule d'un prisonnier. Vous aurez pour habitude de vivre sans résultat et sans espoir. Vous travaillerez pendant un certain temps, vous serez pris, vous avouerez, et ensuite vous mourrez. Ce sont les seuls résultats que vous ne verrez jamais. Il est impossible qu'un quelconque changement se produise de notre vivant. Nous sommes des morts. Notre seule vraie vie est dans le futur. Nous prendrons part à cet avenir sous forme de poignées de poussière et d'esquilles d'os. Mais jusqu'à quel point l'avenir est lointain, il n'est pas possible de le savoir. Il pourrait être de 1000 ans. À l'heure actuelle, rien n'est possible, sauf à étendre peu à peu la zone de santé mentale. Nous ne pouvons pas agir collectivement, nous ne pouvons diffuser nos connaissances que d'individu à individu, génération après génération. En face de la police de la pensée, il n'y a pas d'autre voie. Il s'arrêta, regarda pour la troisième fois sa montre-bracelet. « Il est presque temps pour toi de partir, camarade, » dit-il à Julia. « Attends. La carafe est encore à moitié pleine. » Il remplit les verres et leva le sien par le pied. « Qu'est-ce que ce sera cette fois-ci » dit-il, toujours avec la même légère suggestion d'ironie. « À la confusion de la police de la pensée ? À la mort de Big Brother ? À l'humanité ? À l'avenir ? Au passé, » déclara Winston. « Le passé est plus important, » consentit M. O'Brien avec gravité. Ils vidèrent leurs verres et un instant plus tard, Julia se leva pour partir. O'Brien prit sur un secrétaire une petite boîte et tendit à Julia une tablette blanche et plate qu'il lui dit de se mettre sur la langue. Il était important de ne pas sortir avec l'odeur de vin sur soi. Les liftiers étaient très observateurs. Dès que la porte se fut refermée derrière elle, il sembla oublier son existence. Il reprit sa marche, puis s'arrêta. « Il y a des détails à régler, » a-t-il dit. « Je suppose que vous avez une sorte de cachette. » Winston parla de la pièce située au-dessus du magasin de M. Charrington. « Cela fera l'affaire pour le moment. Plus tard, nous organiserons autre chose pour vous. Il est important de changer fréquemment de cachette. En attendant... « Je vous enverrai une copie du livre. » Même O'Brien, remarqua Winston, semblait prononcer les mots comme s'ils étaient en italique. « Le livre de Goldstein, vous comprenez ? Dès que possible. Il faudra attendre quelques jours avant que je puisse en obtenir un. Il y a très peu d'exemplaires, comme vous pouvez l'imaginer. La police de la pensée les traque et les détruit presque aussi vite qu'il est possible de les produire. Cela fait très peu de différence. Le livre est indestructible. Si la dernière copie avait disparu, nous pourrions la reproduire presque mot pour mot. Avez-vous un porte-document pour travailler ? A-t-il ajouté. En règle générale, oui.
Comment est-il ?
Noir et très miteux, avec de lanières.
Noir, de lanières, très miteux. Un jour, dans un avenir proche, je ne peux pas donner de date, un des messages de votre matinée de travail contiendra une erreur d'impression et vous devrez demander une autre copie. Le jour suivant, vous vous rendrez au travail sans votre porte-document. À un moment de la journée, dans la rue, un homme vous touchera le bras et vous dira « Je pense que vous avez laissé tomber votre porte-document. » Celui qu'il vous remettra contiendra un exemplaire du livre de Goldstein. Vous le lui rendrez dans les 14 jours.
Ils se sont tus pendant un moment.
« Il vous reste quelques minutes avant de devoir partir, » dit O'Brien. « Nous nous rencontrerons encore si nous devons nous rencontrer. »
Winston le regarda.
« Là où il n'y a plus de ténèbres, » continua-t-il en hésitant. O'Brien acquiesça sans manifester de surprise. « Là où il n'y a plus de ténèbres, » répéta-t-il comme s'il avait reconnu l'allusion. « Et entre-temps, y a-t-il quelque chose que vous désiriez dire avant de partir ? Un message, une question ?»
Winston réfléchit. Il ne semblait pas y avoir d'autres questions qu'il voulait poser. Encore moins s'est-il senti l'envie de prononcer des généralités de haut vol. Au lieu de penser à quelque chose qui se rapporterait directement à O'Brien ou à la fraternité, il lui vint à l'esprit une sorte de tableau composite de la sombre chambre dans laquelle sa mère avait passé ses derniers jours, de la petite pièce au-dessus du magasin de M. Charrington, du presse-papier de verre et de la gravure sur acier dans son cadre de bois rosé. Presque au hasard, il dit « Avez-vous déjà entendu une vieille rime qui commence par « Orange et citron » disent les cloches de Saint-Clément ?» De nouveau, O'Brien acquiesça. Avec une sorte de courtoisie grave, il compléta la strophe. « Orange et citron » disent les cloches de Saint-Clément. « Tu me dois 3 fartins » disent les cloches de Saint-Martin. « Pourras-tu les payer ?» disent les cloches du vieux Bélay. « Quand je serai riche » disent les cloches de Shoreditch. « Tu connaissais la dernière ligne ?» dit Winston.
« Oui, je connaissais la dernière ligne. Et maintenant, j'ai bien peur qu'il soit temps que tu y ailles. Mais attends, tu ferais mieux de me laisser te donner une de ces tablettes. » Alors que Winston se levait, O'Brien lui tendit la main. Sa poigne puissante écrasa les os de la paume de Winston. À la porte, il se retourna, mais O'Brien semblait déjà être en train de l'oublier. Il attendait avec la main sur l'interrupteur qui contrôlait le télécran. Winston put voir dans le fond la table à écrire avec sa lampe à abat-jour vert, le phonoscript et les corbeilles à télégrammes bourrées de papier. L'incident était clos. Dans 30 secondes, se dit-il, O'Brien aurait repris pour le service du parti son important travail interrompu.